Radio Prague, émission en langue française. Madame, monsieur, merci d'être avec nous. Voici pour commencer un bulletin d'information présenté par Václav Richter. Plusieurs organisations non gouvernementales et non lucratives en République tchèque se sont mobilisées pour aider les victimes de la catastrophe ayant ravagé les côtes de plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Des collectes sont organisées entre autres par les organisations ADRA, la Charité catholique tchèque, la Diaconie de l'Église évangélique des Frères tchèques, la Croix-Rouge tchèque et l'Homme en détresse. Ces deux dernières organisations enverra ce mardi une aide matérielle dans la région de la ville de Mulaitivu au Sri Lanka, notamment des couvertures, des vêtements, de l'eau potable et du riz. On n'a pas réussi à contacter plusieurs dizaines de touristes tchèques qui se trouvaient dans les régions sinistrées au moment de la catastrophe. Selon le ministère tchèque des Affaires étrangères, il y avait dans ces régions, au moment critique, quelques centaines de touristes tchèques. Plusieurs ressortissants tchèques ont été blessés. Le ministère ne dispose pas d'informations que des Tchèques auraient été parmi les victimes du cataclysme. Le ministère a décidé d'augmenter les effectifs des consulats tchèques dans les pays sinistrés. Tous les clients des grandes agences de voyage tchèques qui se trouvent en Asie du Sud-Est seraient en bonne santé. Ils n'ont pas de problème de logement et les agences cherchent tous les moyens pour leur permettre de se rapatrier le plus rapidement possible. La majorité des clients des agences désirent cependant rester dans la région jusqu'à la fin prévue de leurs vacances. La République tchèque se rapproche du niveau économique moyen de l'Union européenne. Selon l'Office national de statistiques, la richesse de la République tchèque par habitant a atteint en 2003 73% de la moyenne de l'Union européenne. Quant à Prague, elle a atteint 164% de la moyenne et se classe parmi les régions les plus riches de l'Union. C'est notamment pour les touristes tchèques en France qu'on a ouvert le 26 décembre 2004 un consulat à Albertville dans les Alpes. Le nouveau consulat sera ouvert jusqu'à la mi-mars 2005 et aidera les ressortissants tchèques qui se trouveront dans des situations difficiles. L'adresse du nouveau consulat, Hôtel Le Roma, 85 chemin du pont Albertin, 73 200 Albertville. Météo. Ce lundi, le ciel en République tchèque a été couvert avec de la neige en Bohême et de la pluie en Moravie. Les températures diurnes se sont situées entre 0 et 3 degrés en Bohême et 2 à 6 degrés en Moravie. Mardi, le temps en Tchéquie sera nuageux à couvert avec quelques chutes de neige. Les températures s'échelonneront de moins 3 à 1 degré au-dessus de 0. C'était les informations de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski.
Après le week-end des joyeuses fêtes de Noël, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce magazine d'actualité tchèque. Il débutera, malheureusement, par la catastrophe qui a touché l'Asie du Sud-Est, mais aussi la Tchéquie, car de nombreux touristes tchèques passent la fin de l'année dans cette région. Ensuite, Yarkagi Subelova nous présentera l'opinion des Ukrainiens vivant en Tchéquie au lendemain des présidentielles. Alexis Rosenzweig s'est intéressé au problème que rencontre la bière tchèque de grande marque Budvar. Nous reviendrons avec Elena Gebertova sur le Noël tchèque vu par des Français et nous rappellerons aussi l'anniversaire de la disparition d'un grand écrivain tchèque, Karel Čapek. Nous devons la réalisation technique de l'émission à Irena Vernochova. Le plus fort tremblement de terre depuis 40 ans sous les eaux de l'océan Indien dans les environs de l'île de Sumatra a déclenché une catastrophe. Le séisme a provoqué un raz-de-marée géant qui a dévasté une bonne partie de l'Asie du Sud-Est. Des vagues énormes ont noyé les rivages de la région, surtout au Sri Lanka, en Thaïlande, sur les côtes de l'Est de l'Inde, aux Maldives et même sur les côtes orientales de l'Afrique. Un séisme qui aurait fait, selon les dernières estimations, plus de 17 000 victimes. La Thaïlande, les Maldives, le Sri Lanka, des destinations de rêve pour certains Tchèques à la fin de l'année. Plusieurs centaines y passaient les fêtes de Noël, parmi eux des célébrités comme le chanteur Karel Gott aux Maldives, d'autres en voyage organisé. Selon les autorités pragoises, aucune victime tchèque ne serait pour l'heure à déplorer. Le raz-de-marée a été terrible, comme le dit Zdeněk Soubal, un Tchèque en vacances sur les plages de l'état du Tamil Nadu en Inde.
silnice vlastně vede rovnoběžně s břehem, ale není na moře vidět. A když jsme
La route de la côte suit le rivage. On ne voit pas la mer, mais quand nous sommes arrivés en bord de mer, nous avons rencontré des gens qui couraient en pleurant, des enfants aussi, qui nous ont dit de faire demi-tour, de quitter le bord de mer. Nous n'avons pas vu le raz-de-marée, seulement l'énorme vague qui se retirait, mais d'après nos estimations, les vagues devaient être de 4 à 5 mètres. Les cabanes, des pêcheurs, les petits hôtels, tout ce qui est en bord de mer a été complètement détruit. Selon Šárka Fúrka, correspondante de la radio tchèque en Asie du Sud-Est, des secousses ont encore été ressenties ce lundi matin. Naturellement, le monde ne reste pas indifférent et offre son aide. La République tchèque est également prête à porter secours aux régions touchées. Selon le ministère des Affaires étrangères, il faut pourtant attendre un peu pour connaître les véritables besoins des pays sinistrés. Les autorités tchèques penchent plutôt pour une aide humanitaire et matérielle. Un état-major de crise s'est réuni ce lundi et une aide immédiate de 10 millions de couronnes tchèques sera fournie. Le ministère des Affaires étrangères recommande aussi de ne pas voyager dans les régions sinistrées. Les organisations humanitaires tchèques comptent aussi participer au secours. Au troisième tour de l'élection présidentielle en Ukraine, l'opposant pro-occidental Viktor Yushchenko a obtenu environ 3 millions de voix de plus que son rival pro-russe Viktor Yanukovych. Parmi ces voix, il y avait également celle des Ukrainiens de Tchéquie. Une information de Yarka Gisubelova.
Alors que pour les Tchèques, le dimanche 26 décembre était une journée de fête, celle de Saint-Étienne, les Ukrainiens de Tchéquie, eux, attendaient encore le moment de fêter. Des bureaux de vote pour le troisième tour de la présidentielle ukrainienne étaient ouverts ce jour-là à Prague et à Brno. La communauté ukrainienne, qui compte plus de 50 000 membres, est la deuxième plus importante en Tchéquie. Une majorité écrasante de ses membres a voté pour le réformateur Yushchenko. Des Ukrainiens de Prague ont exprimé leur opinion lors des manifestations en son soutien et en faveur d'un troisième tour, manifestation organisée depuis des semaines devant l'ambassade de l'Ukraine à Prague.
Yushchenko! 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 Yushchenko!
À Kiev, le leader de la Révolution Orange, Viktor Yushchenko, s'est proclamé vainqueur déjà avant l'aube ce lundi, sur la place de l'Indépendance, après le dépouillement de plus de 90% des suffrages. L'envoyé spécial de la radio tchèque, Martin de Razin, était sur place. Selon les résultats publiés lundi matin, Viktor Yushchenko a recueilli 57% des voix et son rival, le premier ministre Viktor Yanukovych, 39%. Suivant les régions, Yushchenko a remporté à l'ouest de l'Ukraine jusqu'à 95% des suffrages et son rival pro-russe a enregistré le même résultat à l'est et au sud-est du pays. Son équipe a dénoncé des violations constitutionnelles ayant empêché plusieurs milliers de personnes âgées, malades et handicapées de voter à cause d'une grande distance entre leur domicile et les bureaux de vote et d'un amendement à la loi électorale limitant le droit de vote à domicile et invalidé seulement à la veille du scrutin. La nouvelle opposition ukrainienne est dans ce cas-là prête à s'adresser à la Cour constitutionnelle. Selon plus de 12 000 observateurs étrangers qui ont veillé au bon déroulement du scrutin, le troisième tour de la présidentielle ukrainienne a été organisé en accord avec le droit. N'empêche que la victoire de Viktor Yushchenko laisse un pays profondément divisé.
Budějovický Budvar, le plus important des brasseurs tchèques encore détenu par l'État, n'en finit pas d'affronter dans les tribunaux du monde entier le géant de la bière, l'américain Anheuser-Busch. Les deux brasseurs, le tchèque et l'américain, se disputent le droit d'utiliser la marque Budweiser, dérivée de l'ancien nom allemand de la ville de Bohême du Sud, České Budějovice. Alors que les juges compétents statuent pays par pays dans cette affaire, les Américains se sont targués très récemment d'avoir l'Organisation mondiale du commerce de leur côté. Dans son rapport, l'OMC considère que la traduction des lieux ne peut être protégée de la même manière que le nom original, donc que le nom Budweiser peut être utilisé pour un produit qui n'est pas fabriqué à České Budějovice. Compliqué ? Pour plus d'explications, Alexis Rosenzweig s'est adressé à Claude Véron-Reville, le porte-parole du commissaire européen au commerce.
Le brasseur américain Anheuser-Busch peut-il considérer ce rapport de l'OMC comme une victoire?
En général, avec un panel de l'OMC, les résultats ne sont jamais tout noirs ou tout blancs. Il faut bien voir que un panel de l'OMC est un document juridique extrêmement complexe et très épais. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'un document de plus de pratiquement 200 pages. Et les avis, effectivement, sont partagés. Nous, ce que nous pensons, c'est que l'OMC a donné raison à l'Union européenne dans la mesure où elle a confirmé et même renforcé notre système de protection des indications géographiques. Dans le cas de la bière tchèque, le panel de l'OMC a bien dit que la bière américaine Budweiser ne peut pas exclure la bière tchèque qui est vendue sous le nom tchèque.
Mais ce n'est pas la position du président de Anheuser-Busch.
C'est-à-dire que les États-Unis se réjouissent sur un certain nombre de points qui ne sont peut-être pas les points majeurs du jugement de l'OMC. Il est vrai que sur certains points, l'Union européenne va devoir donner des explications. Je donne un exemple. Les États-Unis se sont réjouis pour un point que nous considérons technique et qui concerne la procédure pour avoir leurs indications géographiques américaines protégées dans l'Union européenne. Là, nous devrons clarifier notre position.
Dans ce conflit qui oppose ces deux brasseurs depuis bien longtemps maintenant, quel rôle peut jouer la Commission depuis l'adhésion de la République tchèque à l'Union?
C'est-à-dire qu'au moment de l'adhésion, l'Union européenne a enregistré les noms qui ont été proposés par la République tchèque. Je vais essayer de les prononcer. Il s'agit de Budějovice Pivo, Češko Budějovice Pivo et Češko Budějovický Meštanský Var. Le jour même de l'adhésion, ces trois noms ont été protégés dans l'Union européenne. Et l'Union européenne fera en sorte que ces trois noms aient leur droit d'existence sur le territoire de l'Union européenne.
Alors qu'est-ce qu'il reste à faire aux dirigeants de la brasserie tchèque après ce panel de l'OMC?
Il reste à faire ce que nous devons tous faire, attendre que le panel sorte de façon publique, car je vous rappelle que ce panel est sorti encore de façon confidentielle pour les parties. Il y a une règle de confidentialité qui a été visiblement violée, notamment du côté américain. Donc nous attendons le résultat final pour analyser en totalité tout le résultat de ce panel juridique. Mais nous sommes assez optimistes.
Gabriela Georgeva, jeune Tchèque mariée depuis 6 ans à un Français, est une personne très bien placée pour observer les différences entre les Noëls tchèques et français. Si, la semaine dernière, elle a comparé les différentes habitudes liées dans les deux pays au 24 décembre, aujourd'hui, elle va nous confier encore 2 ou 3 observations amusantes.
Les fêtes de Noël à partir du 25 décembre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ressemblances à partir de ce moment-là, parce que la journée du 25 décembre est considérée en France comme en République tchèque, comme une journée où on rassemble la famille élargie, donc on reste pas seulement dans la famille les enfants et les parents, mais on élargit les rencontres aussi aux grands-parents, aux tantes, donc la famille élargie, et en fait la journée du 25 dans les deux pays en accompagnement des autres personnes de la famille. Je compléterai peut-être pour conclure par une remarque que m'a fait mon mari quand il est venu passer Noël en République tchèque, c'est qu'il s'est aperçu que finalement les Tchèques mangent leur repas de Noël beaucoup plus rapidement que les Français. Les Français aiment bien profiter de leur repas, passer beaucoup de temps à table, alors que les Tchèques, c'est vrai, mettent moins d'importance à la manière de consommer le repas de Noël. Et c'est vrai qu'en termes de temps, les Tchèques mangent beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et ça amuse beaucoup mon mari, qui est français, et qui, effectivement, m'a fait cette remarque comme celle qui l'a marqué le plus dans les différences entre le Noël tchèque et le Noël français.
Le jour de Noël, justement, le 25 décembre 1938, Karel Čapek, un grand écrivain, journaliste et auteur dramatique, quittait ce monde. Karel Čapek, né le 3 janvier 1890 dans la petite commune de Malé Svatonovice, est l'inventeur d'un mot qui est devenu universel, robot. Un nom qu'il a inventé pour sa pièce de théâtre, RUR, une œuvre toujours actuelle, avec la robotisation, c'est le cas de le dire, de notre mode de vie. Karel Čapek est surtout connu pour ses romans et pièces de théâtre antimilitaristes écrites à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut d'ailleurs pour cela qu'immédiatement après l'occupation de la Tchécoslovaquie par le Troisième Reich, la Gestapo vint frapper à la porte de sa villa pragoise pour l'arrêter. Inutile, le grand écrivain était déjà décédé. Ce sont les nouvelles de Karel Čapek qui sont ses œuvres les plus connues et surtout les plus populaires, comme celle par exemple que l'acteur Rudolf Pellar a lue au cimetière de Vyšehrad lors de l'acte de piété à la mémoire de Karel Čapek en ce 25 décembre 2004. La trace, c'est le nom de la nouvelle, raconte l'histoire de deux hommes qui étudient une trace de pas dans la neige. Quelle est son origine? Comment est-elle arrivée là? Ils réfléchissent longtemps, tant et si bien qu'à la fin, la neige tombante recouvre la trace ainsi que leurs propres traces. C'est le style Čapek, comme l'a lu lors d'une brève cérémonie le journaliste Jiří Jašt, en rappelant que cette même nouvelle avait été lue sur les ondes de la radio tchécoslovaque au son des cloches de l'église Saint-Pierre et Paul de Vyšehrad le 26 décembre 1938, lors de l'annonce du décès de l'écrivain. Alain Slivinski et la rédaction française de Radio Prague vous ont présenté Faits et événements.
Sport en République tchèque.
Bienvenue chers auditeurs à l'écoute de notre rubrique sportive consacrée cette semaine au bilan de l'année 2004 pour les sportifs tchèques. Et pour la République tchèque, l'année qui s'achève a bien sûr été marquée, vous le savez, dans le domaine sportif par le football et les excellentes prestations de l'équipe nationale. Mais certains athlètes et sportifs de haut niveau ont réussi, grâce à leurs performances, à attirer aussi l'attention sur leur discipline. Pas de doute, le CRU 2004 restera un millésime pour le football tchèque. La sélection nationale, emmenée par le flamboyant capitaine à la crinière blonde de la Juventus de Turin, Pavel Nedvěd, vous le savez, Ballon d'Or 2003-2004, a réalisé un superbe parcours à l'Euro portugais. Ce n'était pourtant qu'une demi-surprise, tant les prestations de l'équipe de l'entraîneur Karel Brückner avaient déjà su impressionner ses adversaires lors des qualifications. Un goal exceptionnel, Peter Cech, parti depuis garder les buts de Chelsea en Angleterre, un milieu de terrain de classe internationale mené de main de maître par Nedvěd et appuyé par le jeune Tomáš Rosický, convoité lui aussi par les plus grands clubs d'Europe, une ligne d'attaque dominée en hauteur par la tour de contrôle Jan Koller et en vitesse par la révélation de la compétition, Milan Baroš, meilleur buteur avec 5 réalisations en 5 matchs. Une dream team de bohème en quelque sorte dans laquelle seule la défense, et encore, a pu faire preuve de fébrilité. Et c'est une équipe ultra défensive, la sélection grecque de l'allemand Otto Rehagel, qui a mis fin en demi-finale au parcours sans faute des Tchèques. Nedvěd, qui avait dû quitter le terrain quelques minutes avant le but assassin des Grecs, a obtenu avec les siens une médaille de bronze et gagné de respect dans le petit monde du ballon rond, notamment après un match époustouflant contre les Pays-Bas. Depuis, le capitaine tchèque a annoncé son retrait de la sélection nationale, mais les rumeurs sur son retour n'en finissent pas de circuler. Une chose est sûre, en tout cas, les Tchèques, s'ils se qualifient pour la Coupe du Monde 2006, se rendront chez le voisin allemand avec de grandes ambitions. Après l'euphorie, puis la déception, il faut bien le dire, de l'Euro en juillet, le public tchèque attendait avec impatience un exploit à Athènes, où les Jeux Olympiques d'été étaient organisés. Et malgré l'échec de la légende du javelot Jan Železný, qui n'a pu finir sa splendide carrière sur une victoire, les Tchèques ont pu se consoler avec l'exploit de leur surhomme, Roman Šeberle, vainqueur de la compétition la plus noble des Olympiades, le décathlon. Šeberle reste le seul homme de l'histoire de la discipline à avoir dépassé la barre mythique des 9000 points, et l'or olympique est venu couronner une saison de victoires. Désigné sportif de l'année en Tchéquie, le décathlonien a déjà donné rendez-vous à ses fans au championnat du monde d'Helsinki l'année prochaine. Plus tôt cette saison, un événement majeur était attendu avec la plus grande impatience à Prague et à Ostrava. Le championnat du monde de hockey sur glace se jouait pour la première fois en effet depuis longtemps à domicile et tous les supporters tchèques, dans la nouvelle enceinte pragoise construite pour l'occasion, la Saska Arena, ou dans les bars, croyaient dur comme fer à la victoire de l'équipe emmenée par leur idole, Jaromír Jágr. Seulement voilà, malgré un bon parcours, les hockeyeurs tchèques ont dû s'incliner de justesse face aux Américains en quart de finale. Dommage pour les fans qui ont tout de même pu se consoler cette saison en allant voir leurs joueurs préférés évoluer sous les couleurs des clubs de Bohême et de Moravie qu'ils avaient délaissés depuis bien longtemps. Le « lockout » comme on dit de la Ligue nord-américaine, NHL, a en effet permis aux clubs européens et aux clubs tchèques entre autres de bénéficier du renfort de choix de certains des plus grands joueurs du moment. Malheureusement, ceux-ci ne resteront pas indéfiniment dans les clubs tchèques, pour des raisons financières bien sûr, et beaucoup, dont Jaromír Jágr, sont déjà repartis vers d'autres contrées où les salaires sont plus élevés. Ce ne sont pas ces histoires de transferts qui ont le plus bouleversé le monde du hockey cette année malheureusement en République tchèque, mais la mort tragique de l'entraîneur national Ivan Hlinka dans un accident de la route 2 semaines avant la Coupe du Monde. Mais l'année 2004 a également permis à d'autres sportifs tchèques de s'illustrer dans des disciplines différentes. En tennis, Jiří Novák a réussi l'une des plus belles saisons de sa carrière, remportant notamment les tournois de Tokyo et de Bâle. En ski de fond, les concurrentes de Kateřina Neumannová ont pu assister à son retour en très grande forme après un congé maternité. Des succès dès ses premières courses, à Ramsau par exemple, ou à Laclusa en France, ont permis à la meilleure fondeuse tchèque de terminer à la 9e place du classement général de la saison 2003-2004, alors qu'elle n'avait participé qu'à la moitié des courses. Et c'est ainsi que s'achève notre rubrique consacrée à l'année des sportifs tchèques. Un dernier mot pour vous signaler que le sauteur à ski Jakub Janda fait partie des favoris cette saison pour la prestigieuse tournée des 4 tremplins qui se déroule en Allemagne et en Autriche. On se retrouve quant à nous l'année prochaine pour une nouvelle rubrique sportive. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une très bonne année. À très bientôt.
Un peu de musique quand même. Alena Gebertova.
De musique sera consacrée à Jana Boušková, harpiste tchèque de la renommée mondiale. Jana Boušková est certes la harpiste tchèque la plus connue. Soliste, elle a remporté de nombreux succès dans le pays et à l'étranger. Aujourd'hui, à l'âge de 34 ans, elle a décidé d'élargir sa carrière de soliste en devenant membre de la Philharmonie tchèque, premier corps philharmonique du pays. Pourquoi ? La carrière d'une soliste est incertaine, explique-t-elle, et d'ajouter le poste de la première harpiste de la Philharmonie tchèque est une grande occasion pour moi de connaître de nouvelles compositions, de découvrir d'excellents interprètes et chefs d'orchestre. Pour Yana Bojkova, la harpe est l'un des plus importants instruments solo dans un orchestre. Elle apprécie aussi le fait que la Philharmonie tchèque soit un orchestre d'excellente qualité, jouissant de longues traditions et d'un grand renom dans le monde. Écoutons dans l'interprète Yana Bojkova la danse espagnole de Manuel de Falla. Yana Bojkova se félicite de ce que la harpe n'est plus l'unique instrument féminin dans la philharmonie tchèque. Si récemment encore l'orchestre a été réservé presque exclusivement aux hommes, il compte dorénavant plusieurs femmes. En devenant membre de la philharmonie tchèque, Yana Bojkova, mère de deux enfants, ne veut pas pour autant renoncer à ses concerts donnés en solo. Elle souhaite réconcilier tout simplement les deux activités. C'est avec ce magazine de musique consacré aujourd'hui à la harpiste tchèque Yana Bojkova que se termine notre programme d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11.